VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, va passer la journée internationale des casques bleus mardi auprès des troupes de la mission de paix au Mali, la MINUSMA. Cette mission est la plus coûteuse en vie humaine des opérations actuelles des Nations Unies. Anne Albesson.
Dès son arrivée mardi, M. Guterres assistera à une cérémonie en mémoire des casques bleus tués au Mali. La MINUSMA, qui compte environ 12 500 militaires et policiers, a perdu au total plus de 160 casques bleus, dont une centaine dans des actes hostiles depuis son déploiement en 2013. Le séjour au Mali du secrétaire général se veut aussi une visite de solidarité pour le Ramadan, au cours duquel M. Guterres va jeûner, selon le communiqué de l'ONU. Alors que le Mali se prépare à une élection présidentielle fin juillet, M. Guterres rencontrera le président Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa réélection, le premier ministre Soumaïlou Boubaï Maïga et d'autres responsables maliens. Au cours de sa visite de deux jours, le secrétaire général se rendra aussi dans plusieurs régions du pays pour y rencontrer des autorités locales, des membres de l'ONU, ainsi que des représentants de communautés de femmes, de jeunes et de religieux. Antonio Guterres sera accompagné des secrétaires généraux adjoints pour le soutien logistique et les opérations de paix, respectivement Atul Harre et Jean-Pierre Lacroix, ainsi que de la directrice de l'UNICEF, Henrietta Fore.
Aux Comores, l'opposition dénonce les abus de pouvoir du président colonel Azali. Suspension de la Cour constitutionnelle, manifestation interdite, référendum, assignation à résidence d'un ex-président. Depuis des mois, le chef de l'État comorien Azali Assoumani multiplie les initiatives dénoncées par l'opposition comme autant d'abus de pouvoir. La société civile ne cache pas non plus ses inquiétudes. On est sorti de la République pour entrer dans une monarchie qui ne dit pas son nom, a affirmé Salim Souleymana, le président de la Fédération des organisations de la société civile comorienne. Au Burundi, l'ombre de la répression de 2015 plane encore sur Bujumbura, la capitale. Des mesures de sécurité très strictes y sont toujours en vigueur. Les habitants doivent avoir des cahiers chez eux et inscrire les noms de toute personne qui vient en visite. Les forces de sécurité peuvent débarquer à tout moment pour vérifier la liste des visiteurs et ceux qui dérogent à la règle risquent la prison. Reportage Mohamed Youssouf à Bujumbura, récit Morgane Guiriek.
C'est Rugo Mugyango. Quindi, page, je te indique, maman.
Ira Kose est âgée de 22 ans. Elle vit dans le quartier de Bujumbura où a commencé la révolte en 2015 contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. La répression a été sanglante. Beaucoup de Burundais ont fui leur maison, mais Ira Kose est restée chez elle et passe la plupart de son temps toute seule.
Cela fait deux ans que le gouvernement a remis à chacun un carnet. Et depuis, je n'ai reçu aucune visite parce que les gens ont peur.
Les autorités burundaises ont distribué ces cahiers. Les habitants doivent y marquer les noms des membres de leur famille et leurs visiteurs. Il faut signaler tous les visiteurs aux représentants locaux du pouvoir. Il peut être membre de la milice Imbonerakure du parti au pouvoir, le chef de cellule chargé de surveiller une dizaine de concessions, ou bien le chef de secteur ou le chef de colline. Ne pas signaler ses visites ou ne pas inscrire les noms des visiteurs peut vous mener directement en prison. La police veille au grain par des fouilles régulières dans les maisons, ce qui terrifie Ira Kose.
La police tape violemment aux portes. Elle réveille les enfants et fait peur à la famille. Cette violence nous fait penser parfois que nous sommes en train d'être attaqués par une bande de criminels. Les policiers viennent toujours de manière brutale et en grand nombre pour fouiller les maisons.
La révolte populaire de 2015 a été déclenchée par la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. La semaine dernière, les Burundais ont approuvé par référendum une nouvelle constitution qui devrait permettre au président Nkurunziza de briguer deux autres mandats de 7 ans à partir de 2020. Les États-Unis ont dénoncé ce processus pour son manque de transparence et les efforts d'intimidation de toute opposition dans un climat de peur pour tous les Burundais.
50 corps sans vie ont été repêchés après le naufrage mercredi d'une embarcation sur une rivière du nord-ouest de la République démocratique du Congo. Le naufrage a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous avons retrouvé 49 corps jeudi et un autre corps a été retrouvé ce matin, a déclaré à l'AFP Richard Mboyo Iluka, le vice-gouverneur de la province de la Chuapa, dans le nord-ouest de la RDC. Au moins 7 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées jeudi soir dans un attentat à la voiture piégée dans le centre de la ville de Benghazi, dans l'est de la Libye. La voiture a explosé près de l'hôtel Tibesti, sur une avenue commerciale où la vie nocturne est d'habitude animée au cours du mois sacré de jeûne musulman du Ramadan. L'attentat n'a pas été revendiqué jusqu'ici, mais les responsables libyens ont accusé des cellules terroristes dormantes qui veulent envoyer un message selon lequel Benghazi n'est pas sûr.
VOA Afrique en direct de Washington.
Il est 7h05 dans la capitale américaine. L'Arabie Saoudite a intercepté aujourd'hui un missile au-dessus de la ville méridionale de Najran qui avait été tiré depuis les zones rebelles du Yémen voisin. Ces derniers mois, les insurgés ont intensifié les attaques de missiles contre l'Arabie Saoudite qui accuse Téhéran, son grand rival régional, de leur fournir ce type d'équipement. L'Iran reconnaît soutenir politiquement les Houthis, mais nie tout appui militaire. Deux hommes suspectés de participation aux activités d'un groupe terroriste ont été arrêtés en Belgique dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Ces attentats du 13 novembre 2015 sont attribués à la même cellule qui avait commis, 5 mois plus tard, le 22 mars 2016, les attaques des kamikazes de Bruxelles, faisant 32 morts et plus de 320 blessés. Les deux attaques avaient été revendiquées par l'organisation État islamique. Le Parti socialiste espagnol, première formation d'opposition, a déposé aujourd'hui une motion de censure contre le gouvernement de Mariano Rajoy, après que son parti conservateur a été condamné dans un spectaculaire procès pour corruption. La motion a été déposée à la Chambre des députés. Pour réussir, cette motion devrait recueillir une majorité absolue de 176 députés derrière le candidat que présentera le parti pour former un nouveau gouvernement. Une majorité toutefois difficile à réunir dans une opposition très divisée. L'Iran, les Européens, la Chine et la Russie se réunissent ce vendredi à Vienne pour faire le point sur leur tentative de sauver l'accord nucléaire conclu en 2015 avec Téhéran, 2 semaines après le retrait fracassant de Washington. Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de l'accord, la réunion de la commission conjointe chargée de superviser l'application du texte se tiendra sans les États-Unis qui s'en sont retirés. Vous vous en souvenez, c'était le 8 mai. La Chine a appelé aujourd'hui la Corée du Nord et les États-Unis à faire preuve de bonne volonté et de patience au lendemain de l'annulation du sommet qui était prévu entre Donald Trump et Kim Jong-un. La Chine, principale alliée du régime nord-coréen, se félicite de constater que les deux parties se sont dites ouvertes au dialogue en dépit de l'annulation du sommet historique qui devait avoir lieu le 12 juin à Singapour. La Chine a appliqué ces dernières années les sanctions internationales visant à convaincre Pyongyang de renoncer à son arsenal nucléaire tout en condamnant les menaces militaires des États-Unis. La Colombie vote dimanche à la première élection présidentielle depuis la paix avec la rébellion des FARC, un scrutin clé pour un pays polarisé par cet accord historique que le candidat de droite et favori, Iván Duque, promet de réviser. 6 hommes sont en lice pour succéder à Juan Manuel Santos, au pouvoir depuis 2010 et qui le quittera dès le mois d'août prochain. Parmi les 6 candidats, l'avocat et économiste Iván Duque, représentant d'une coalition menée par le Centre démocratique CD et incluant les évangélistes qui engrangent plus de 41% des intentions de vote. Il dévance d'une 12 points son principal rival, Gustavo Petro, âgé de 58 ans, ancien maire de gauche de Bogota et candidat du mouvement Colombie humaine. Et puis le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui a prêté serment dès jeudi à la suite de sa réélection dimanche, a accusé les États-Unis d'avoir orchestré une conspiration contre son pays pour laquelle plusieurs militaires vénézuéliens ont été arrêtés après la prestation de serment devant l'Assemblée constituante uniquement composée de ses partisans. M. Maduro s'est rendu au ministère de la Défense où il a reçu l'armée, son soutien le plus crucial, une réaffirmation de loyauté. Jean-Roger Billon à ce micro, point final à ce jour-là. Le prochain, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
No time.